Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي عني فإن قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce samedi 13 janvier 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique intitulé « L'assaut anglo-américain contre le Yémen montre qui tire les ficelles à Gaza ». Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran condamne les attaques américano-britanniques contre le Yémen. Une explosion de grande ampleur a secoué samedi la capitale Sanaa et des manifestations populaires condamnant les attaques américano-britanniques contre le Yémen. C'était les principaux titres. En voici le journal. Une explosion de grande ampleur a secoué tôt samedi 13 janvier la capitale yéménite Sanaa. Le duo anglo-américain a de nouveau frappé la capitale du Yémen, Sanaa. Le directeur du bureau d'Al-Mayadin au Yémen a confirmé les raids aériens contre la base aérienne d'Al-Daidami près de l'aéroport international de Sanaa, dans le nord de la capitale, après les frappes menées vendredi par les forces de la coalition américaine en mer Rouge. Un correspondant de Reuters, citant des responsables américains, a rapporté que les États-Unis avaient mené une autre frappe contre le Yémen ce samedi. Elle visait une installation radar, selon CNN. Les États-Unis ont mené de nouvelles frappes indépendamment de leurs alliés. Il s'agissait de frappes beaucoup plus modestes que celles d'hier. Elles ont ciblé une installation radar utilisée par les Yéménites, a précisé la chaîne. Pour sa part, NBC News, citant des hauts gradés militaires américains, a rapporté que cette attaque des États-Unis contre le Yémen a été menée par un navire de guerre américain. Téhéran a vivement condamné les récentes attaques des États-Unis contre le Yémen, qui font suite aux frappes menées par Ansarallah en soutien à la résistance des Palestiniens dans la bande de Gaza, victime d'une guerre génocidaire soutenue par Washington. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, s'est exprimé sur le réseau X peu après les attaques des États-Unis et de la Grande-Bretagne contre des positions du mouvement de résistance populaire Ansarallah au Yémen. Plusieurs médias américains ont fait état de ces attaques qui ont impliqué des avions de combat et des missiles Tomahawk. En soutien à la population palestinienne, Ansarallah et les forces armées yéménites ont mené plusieurs frappes de missiles et de drones contre des navires liés au régime israélien ou se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée. Le bilan des morts palestiniens dans les bombardements contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre s'élève à 23 450, en majorité des femmes et des enfants. Les États-Unis ont fourni à Israël un soutien politique et militaire sans limite, dont plus de 10 000 tonnes de matériel militaire. Ils ont également opposé leur veto à toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu permanent à Gaza. En allusion aux opérations des forces armées yéménites, Amir Abdollahian a écrit « Les actions du Yémen en faveur des femmes et des enfants de Gaza et contre le génocide perpétré par Israël sont louables ». Il a précisé que les forces yéménites, y compris celles d'Ansarallah, se sont engagées à n'en cibler que les navires affiliés à Israël. Sanaa est pleinement engagée à observer la sécurité navale et maritime, peut-on lire dans le message du chef de la diplomatie iranienne. Au lieu d'attaquer le Yémen, la Maison-Blanche devrait immédiatement cesser sa pleine coopération militaire et sécuritaire avec Tel Aviv, au détriment de la population de Gaza et de la Cisjordanie, afin de réinstaurer la sécurité dans toute la région, a-t-il dit. Depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier, l'armée israélienne a intensifié ses frappes contre la Cisjordanie, causant la mort de centaines de Palestiniens. Des manifestations ont eu lieu vendredi 12 janvier en Iran et au Yémen contre les récentes attaques américano-britanniques sur le Yémen et en soutien aux opérations menées par Ansar Allah du Yémen en réponse à la guerre génocidaire israélienne dans la bande assiégée de Gaza. Des étudiants des universités et des habitants de Téhéran se sont rassemblés vendredi soir devant l'ambassade britannique pour condamner les frappes américano-britanniques contre le Yémen. Les manifestants ont scandé des slogans hostiles aux États-Unis et à la Grande-Bretagne et porté des pancartes sur lesquelles ils remerciaient le peuple yéménite pour son soutien aux Palestiniens. Les manifestants ont appelé les autorités à prendre des mesures juridiques nécessaires en réaction aux attaques de jeudi à vendredi contre le Yémen, à briser le silence sur la violation des droits de l'homme et à œuvrer pour la fin des crimes du régime sioniste à Gaza. Au terme de la manifestation, les étudiants ont publié un communiqué condamnant les crimes du régime sioniste et des États-Unis et de l'Angleterre contre le Yémen. Au Yémen, des milliers de partisans de la résistance yéménite Ansar Allah ont également organisé vendredi un rassemblement à Sanaa, la capitale, pour protester contre les frappes anglo-américaines contre les sites de ce groupe. Ces frappes ont visé plus de 60 sites d'entraînement et dépôts d'armes dans plusieurs villes du nord du Yémen. Suite à celle-ci, le Conseil politique suprême du Yémen a déclaré vendredi dans un communiqué que tous les intérêts américains et britanniques sont désormais des cibles légitimes d'Ansar Allah. La résistance irakienne a de nouveau pris pour cible les sites vitaux du régime sioniste et les bases américaines dans la région en signe de solidarité avec les peuples de Gaza et du Yémen. La résistance islamique irakienne a déclaré dans un communiqué avoir attaqué vendredi 12 janvier deux cibles en Palestine occupée, le premier étant le port d'Eilat, considéré comme une cible vitale d'Israël, selon le correspondant de la chaîne satellite Al-Alam à Bagdad. Le type d'arme utilisée n'a pas été divulgué, mais le communiqué rappelle qu'une cible vitale a été attaquée dans le port d'Eilat. Des sources proches de la résistance islamique en Irak ont déclaré à Al-Mayadin que la deuxième attaque près du parc de Jourdain visait un centre contrôle appartenant à la brigade Golani. La troisième zone vitale visée par les combattants de la résistance irakienne était le champ gazier de Konoka en Syrie. Aucun rapport n'a été communiqué dans l'immédiat sur les éventuelles victimes et l'étendue des dégâts causés. Un responsable militaire américain a déclaré à Al-Mayadin que les forces américaines avaient fait l'objet d'au moins 130 attaques en Syrie et en Irak depuis le 17 octobre. Il y a eu 53 attaques en Irak et 77 attaques en Syrie. La résistance irakienne a noté que les attaques avaient été menées en représailles au soutien américain à la guerre sanglante menée par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, qui a tué au moins 23 708 personnes et en a blessé 60 005 autres. Les États-Unis, le plus grand allié d'Israël, ont fourni au régime des armes et des munitions depuis le début de la guerre à Gaza. Washington a également apposé son veto aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant le régime occupant à cesser son agression. Au moins 4 jeunes Palestiniens ont été abattus par les forces israéliennes lors de 2 incidents distincts en Cisjordanie alors que la violence s'intensifie dans les territoires occupés parallèlement au bombardement incessant du régime de Tel Aviv sur la bande de Gaza. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa, citant des sources médicales, a déclaré que les forces israéliennes avaient ouvert le feu sur 3 adolescents près de la colonie illégale d'Adora à l'ouest d'Al-Khalil vendredi soir. Les 3 victimes ont été identifiées comme étant Ismail Ahmed Youssef Abu Jahisha, 19 ans, et son cousin Mahmoud Arafat Youssef Abu Jahisha, 16 ans, ainsi qu'Oda Ismail Youssef, également âgé de 16 ans. De même, un étudiant palestinien a été tué et 2 autres ont été blessés par balle lors d'un raid militaire israélien dans la ville de Zeïta, située à 11 km au nord-est de Tul Karem. Des affrontements ont également éclaté suite à l'incursion militaire israélienne dans la ville, au cours de laquelle les forces israéliennes ont attaqué les habitants et blessé 3 autres. Khaled Khiari, sous-secrétaire général des Nations Unies pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, a mis en garde vendredi contre une nouvelle escalade des tensions régionales après les frappes menées par les États-Unis au Yémen. Nous assistons à un cycle de violence qui risque d'avoir de graves répercussions politiques, sécuritaires, économiques et humanitaires au Yémen et dans la région, a averti Khaled Khiari. Selon lui, les récentes améliorations humanitaires dans le pays sont fragiles et pourraient facilement s'inverser en cas de nouveaux incidents, tandis que les progrès réalisés pour parvenir à un règlement politique afin de mettre fin à la guerre au Yémen pourraient également être compromis, laissant le peuple du Yémen confronté à l'impact d'un conflit continu. Des centaines de manifestants se sont rendus vendredi soir à la mission du Yémen à New York pour dénoncer les frappes militaires américaines contre des combattants d'Ansar Allah du Yémen qui se sont engagés à soutenir le peuple de Gaza. Des manifestants ont scandé « Du fleuve à la mer, le Yémen sera libre » ainsi que « Gaza a appelé, le Yémen a répondu ». De même, à Londres, des centaines de milliers de personnes devraient se rassembler ce week-end pour protester contre la guerre à Gaza alors que le conflit s'étend au Yémen. Samedi, les manifestants devraient se rassembler à Bang Junction à midi dans le cadre d'une journée d'action mondiale impliquant 30 pays, a annoncé la campagne de solidarité avec la Palestine. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. L'assaut anglo-américain contre le Yémen montre qui tire les ficelles à Gaza. L'hégémonie occidentale, dirigée par les États-Unis et la Grande-Bretagne, a décidé vendredi 12 janvier d'attaquer le Yémen dans une démonstration de force théâtrale pour satisfaire leur soif de pouvoir et prétendre qu'elle contrôle toujours le monde. Il est important d'indiquer que l'hégémonie occidentale est le plus grand mal que le monde ait jamais connu. Elle ressurgit pleinement aujourd'hui alors que les Américains et leurs alliés continuent non seulement de soutenir le régime israélien, mais aussi de lui apporter leurs appuis militaires alors qu'ils s'acharnent sur Gaza et commet un génocide. L'animosité de ces puissances arrogantes est à nouveau visible aujourd'hui, alors que les pays qui ont déclaré sans crainte leur soutien aux populations de la bande de Gaza assiégée sont bombardés dans l'obscurité de la nuit. Il est important de noter que le Yémen, contrairement à de nombreux autres pays arabes, bloque les navires liés à Israël dans la mer Rouge pour mettre fin à la guerre génocidaire du régime sioniste contre Gaza et au blocus inhumain de ce petit territoire. Ces actions héroïques de l'armée yéménite sont soutenues par l'écrasante majorité des pays. Ils bénéficient également du plein soutien du peuple, comme en témoignent les manifestations et rassemblements massifs dans les principales villes du pays ces dernières semaines. Les puissances arrogantes qui ont attaqué le Yémen aujourd'hui sont responsables de plus de 75 ans d'occupation illégale de la Palestine. Ils sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie occupée. Ce sont ces pays qui fournissent de l'argent, des armes et une couverture diplomatique à l'occupation israélienne de la Palestine. Ils promeuvent activement le génocide, le nettoyage ethnique, le racisme, l'apartheid, la cruelle déshumanisation et l'extrême barbarie en Palestine occupée. Les puissances hégémoniques occidentales et leurs alliés sionistes ont subi une défaite humiliante à Gaza face à la bravoure, au courage, à la résilience et à la fermeté du Hamas et d'autres groupes de résistance palestinienne. Après près de 100 jours de guerre dans la bande de Gaza, le régime israélien, avec ses plus de 500 000 effectifs et toutes ses armes sophistiquées, n'a pas réussi à atteindre un seul résultat malgré les massacres de civils innocents, dont la majorité sont des femmes et des enfants. C'est la principale raison pour laquelle l'axe du mal anglo-américano-sioniste a décidé d'attaquer le Yémen pour détourner l'attention de ses échecs énormes à Gaza et dissimuler les crimes odieux contre l'humanité qu'il perpétue contre les Gazaouis. Une chose est sûre, les bombardements actuels de Sanaa, Hudaïda et Sada par Washington et Londres n'empêcheront pas le peuple brave du Yémen de se tenir aux côtés de la Palestine et de s'opposer pratiquement au génocide à Gaza. L'armée yéménite ripostera certainement ses attaques. Le Yémen n'est pas nouveau dans une telle agression puisque cette honorable nation a survécu plus de 7 ans au bombardement de la coalition arabe orchestrée par les États-Unis. Seul l'Iran a soutenu le Yémen dans ces moments difficiles. L'ampleur du battage médiatique généré par la coalition américano-britannique pour sa frappe au Yémen est un indicateur assez fort qu'elle est conçue comme un théâtre, une vaine tentative de restaurer la dissuasion. Les véritables frappes militaires visant des objectifs militaires ne sont généralement pas diffusées des heures à l'avance. Et c'est exactement ce qu'on a fait cette bande impérialiste occidentale. L'élément vital de surprise était ici absolument absent. Il convient de noter que les décisions américaines et britanniques de renoncer à l'élément de surprise dans l'exécution des frappes autorisent des mesures de précaution qui minimisent les pertes, essayant ainsi d'éviter une escalade significative. Les bombardements de magasins et d'entrepôts vides ne peuvent arrêter la détermination du peuple yéménite à soutenir le peuple opprimé de Palestine. L'histoire a prouvé que le peuple du Yémen ne se laisse pas intimider par les puissances impérialistes. Et le rêve de revivre l'ère américaine d'arrogance et de domination restera un rêve pour toujours. Avec ces attaques, l'hégémonie occidentale a mis en danger la navigation vitale sur la voie navigable de Bab el-Mandeb et en mer Rouge. Il s'agit d'un moment déterminant de l'histoire mondiale et le peuple héroïque du Yémen a décidé de s'opposer aux régimes les plus pervers. Et qui plus est, ils ont le soutien du monde entier, car le monde sera meilleur sans l'impérialisme, l'arrogance et le terrorisme américain.
Bonjour à tous, bienvenue parmi nous dans ce débat consacré encore une fois à Gaza. Comme nous l'avons déjà annoncé auparavant, nous serons avec les Palestiniens jusqu'à la fin de cette guerre. Alors le sujet d'aujourd'hui étant les répercussions des actes terroristes de l'entité sioniste, les réponses données par la résistance, pas seulement la résistance palestinienne, mais aussi la résistance donc libanaise, la résistance irakienne et la résistance syrienne. C'est le sujet de notre débat. Je vous propose d'abord de voir et de regarder notre reportage et par la suite nous ferons donc venir nos deux invités comme le veut notre format. Tout de suite, notre reportage.
Le retrait honteux d'Israël de Gaza, les attaques terroristes à Damas, Beyrouth et Kerman. La pression s'est accrue ces dernières semaines sur le régime de Benjamin Netanyahou, y compris de la part des alliés occidentaux, pour qu'ils mettent fin à l'agression et au siège de Gaza qui se sont révélés un exercice futile. Même le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, lors de sa conférence de presse à Tel Aviv le 18 décembre, a vaguement suggéré qu'Israël n'avait pas réussi à réaliser des progrès substantiels à Gaza depuis près de 3 mois. Cela s'est produit quelques jours après que l'entité sioniste a reçu des coups humiliants à Shujaïe le 13 décembre, des attaques ayant éliminé des bataillons entiers de son élite et de sa très médiatisée brigade Golani. Bien que les États-Unis fassent tout leur possible pour soutenir militairement le régime occupant, ce dernier continue de progresser vers l'anéantissement. Le bilan israélien s'élève à plus de 500 morts, sans compter plus de 5000 soldats blessés. Selon le dernier rapport, environ 13 500 membres des forces israéliennes ont également été déclarés invalides depuis le 7 octobre avec divers degrés de handicap physique et mental. L'occupation israélienne n'a pas réussi à faire face à la stratégie maîtrisée par les combattants de la résistance palestinienne qui les a pris par surprise dans les combats terrestres et souterrains. Le 21 décembre, les sionistes ont annoncé le retrait de leur brigade dite d'élite de Gaza, suivi du retrait de milliers de soldats supplémentaires de ce territoire. Il est indéniable que la résistance palestinienne reste forte et inébranlable face à une armée dont les investissements colossaux, dont la technologie militaire, la puissance aérienne et la surveillance n'ont pas pu compenser l'absence totale d'une force de combat capable et déterminée. Après le retrait humiliant de la brigade Golani de Gaza qui a marqué un revers majeur pour le régime, celui-ci a eu recours à des attaques au-delà de Gaza, à commencer par Damas, où le haut conseiller militaire iranien Sayed Razi Mousavi a été assassiné. Et l'occupation a continué à retirer ses troupes de Gaza de manière humiliante. Depuis le 7 octobre, le mouvement de résistance libanaise, Hezbollah, solidaire de la résistance palestinienne, a mis le régime dans une impasse avec ses frappes de haute précision sur les cibles israéliennes. L'armée d'occupation est restée occupée sur le front nord avec un demi-million de colons qui ont été évacués et qui ne sont pas revenus, dont 250 000 sur le seul front nord. Pour détourner l'attention des pertes massives subies de la part des résistances palestiniennes et libanaises, le régime a décidé d'assassiner le haut dirigeant du Hamas, Saleh al-Arouri, dans la banlieue de Beyrouth. Pourtant, cette attaque n'a rien changé à la réalité de la nouvelle équation sur le terrain. Comme Arouri l'a mentionné dans un récent discours, la mort et les menaces d'assassinat ne parviennent pas à éteindre l'élan de la résistance et le sang versé par les martyrs précédents n'a fait que renforcer la résistance.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Tout de suite, nous allons accueillir nos deux invités. Commençons tout de suite avec Madame Aïssar Midani, notre expert. Je tiens à le rappeler à nos chers auditeurs que Madame Aïssar nous a dit Midani est avec nous depuis le début du terrorisme en Syrie, qui nous a permis de savoir ce qui se passait à l'époque où il n'y avait rien en matière de médias indépendants. Bonjour Madame Midani, ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, je vous remercie de votre invitation et je suis aussi ravie d'être avec vous. Je vous souhaite une bonne année de lutte pour les victoires de l'axe de la résistance.
Merci,
nous les
Madame
souhaitons
Midani.
Tous.
Merci,
et Madame. Bonjour à votre invité.
Merci. Alors, notre deuxième invité, maintenant, Monsieur Amrouni, expert également présent en France, qui nous suit depuis très longtemps avec Presse TV sur les questions régionaux, donc concernant notamment le Moyen-Orient. Bonjour Monsieur Amrouni, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour à vous et à votre équipe, à tous les téléspectateurs, à votre chère invitée Madame Midani. Bonne et heureuse année, bonne santé surtout et bonne continuation pour vous et pour tous les journalistes qui travaillent sur le terrain pour amener l'information, parce que c'est une guerre d'abord, une guerre d'information aujourd'hui.
Tout à fait. C'est même le professeur Obola de Beyrouth qui nous avait indiqué qu'elle estimait que c'était le septième ou le huitième pouvoir finalement à l'heure actuelle, les médias, les réseaux sociaux, tout ce qui finalement a été extrêmement suivi et qui nous permet de suivre en direct ce qui se passe en Palestine. Madame Midani, on va commencer par vous parce qu'il y a eu différentes attaques en deux semaines, voire même une semaine. Si on les calcule tous, il y a eu au Liban, il y a eu en Irak, il y a eu en Syrie. Bon, on ne calcule plus le nombre d'attaques en Palestine, étant donné que c'est permanent, mais ce sont des attaques ciblées, ce sont des attaques qui ont été fomentées afin de réduire ou tout simplement de rendre plus faible la résistance, parce qu'il semblerait que la résistance amène des victoires, parce que sinon ils n'auraient pas été attaqués de cette manière-là, c'est ce qu'on pourrait penser dans tous les cas de figure. Mais ce sont des actes dits terroristes, parce que pour ce qui est de la résistance irakienne, ça s'est fait dans les locaux des militaires nationaux, donc c'est contre la souveraineté irakienne. À Beyrouth, c'est de ce même fait, donc au centre même de la capitale libanaise, donc encore une fois, souveraineté. En Syrie, on ne parle pas du nombre de fois où la souveraineté a été bafouée. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces différents contextes qui se ressemblent finalement ?
En fait, j'ai envie de commencer plutôt par saluer la résistance palestinienne et ses victoires, et aussi tout l'ensemble de l'axe de la résistance qui assène des coups, vraiment des coups fatals en fait à Israël. Et ce qui fait qu'Israël, qui est complètement en fait cet État fantoche, qui est soutenu d'ailleurs par toutes les forces impérialistes du monde, la première étant les États-Unis, qui a construit pratiquement un pont permanent de soutien en munitions, en armes, etc. À Israël. Malgré tout, en fait, il essuie vraiment des échecs cuisants. Son armée est démoralisée et son peuple aussi. Je voudrais rappeler quand même que les, comme vous l'avez dit très clairement dans votre rapport, en fait, qu'il y a quand même au moins 500 000 de colons qui ont quitté et qui ne veulent plus revenir. Donc on voit que l'État fantoche d'Israël est dans une phase de désespoir total, ce qui fait qu'il passe à une politique d'assassinat, ce qui n'est pas nouveau pour lui, mais les agressions américaines aussi se font sur le terrain, ce qui explique aussi ces différents attentats, je dirais, non seulement à la souveraineté de l'Iran, puisqu'ils ont effectué deux attentats barbares, en fait, hein, vraiment barbares, et pour l'anniversaire du décès et de l'assassinat du général Qassem Soleimani et Abu Mahdi Mohandes. De la même manière, en Irak, ils se sont attaqués à pleine capitale, en fait, ce qu'on appelle la ville verte, hein, à l'administration irakienne et aussi aux résistants, au mouvement de résistance al-Hashd al-Sha'bi, qui est partie intégrante de l'armée irakienne et de l'État irakien. Ils se sont attaqués aussi avec des assassinats du général Radi Moussaoui aussi en Syrie, donc en plein centre de Damas aussi, et en plein centre de Beyrouth, hein, dans le quartier qui est vraiment le fief de Hezbollah, aux dirigeants de Hamas, Saleh Al-Arouri. En fait, c'est leur désespoir qui se fait. Je voudrais quand même rappeler qu'ils ont été obligés de retirer aussi leurs troupes de choc, là, la brigade Al-Golani de la Palestine, de Gaza. En fait, ils essuient aussi des grands coups, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, quand ils veulent envahir Jenin, etc. Aujourd'hui, il y a eu aussi des dégâts dans leur armée qui voulait envahir Jenin. De la même manière, beaucoup de soldats ont dépéri à la fois dans leur Merkava, les chars Merkava qui sont la fierté de la production des armes israéliennes, donc là où ils sont attaqués par les militants et par le djihad. islamique, en fait, mais à la distance zéro, c'est-à-dire qu'ils ils vont directement en direct à la confrontation, même avec les chars. Des dizaines aussi et des centaines qui ont dépéri dans les ouvertures des tunnels, parce qu'ils pensaient, ah, ça y est, on a trouvé des tunnels de Hamas, etc. Et en fait, c'était que des pièges pour où les tunnels se sont fait ont été explosés avec les soldats israéliens dedans. Donc, en fait, état de démoralisation générale, je dirais, dans l'armée israélienne. Et à tel point, d'ailleurs, pas seulement ils sont reçus par les psychiatres et par les psychologues, mais aussi nombreux d'entre eux qui refusent aussi maintenant, de nombreux réservistes qui refusent de prendre service, notamment les réservistes qui arrivent à 18 ans et qui doivent y aller et qui doivent aller au service, où il y a un mouvement, un mouvement de ces jeunes qui refusent non seulement d'y aller, mais qui aussi dénoncent l'armée israélienne comme une armée d'apartheid et d'agression et de tueurs des enfants et des femmes. Donc, vraiment, la crise, elle est très profonde. Ajoutez, bien sûr, on le sait, avant le 7 octobre, il y avait quand même au moins 40 semaines de manifestations qui ne discontinuaient pas, de centaines de milliers de personnes contre ce gouvernement qualifié d'extrême droite, en fait, du côté israélien, en fait, hein, et qui voulait absolument la démission de Netanyahou et la démission de ce gouvernement d'extrême droite. Bien sûr, là, pendant la guerre, là, ils ont arrêté. Mais ils ont même réussi à mobiliser quand même la population à leur côté. Mais là, maintenant, comme en plus, ils n'ont pas libéré les otages, et d'ailleurs, clairement, ils ne refusent tout cessez-le-feu et toutes les conditions nécessaires à la libération des otages. Donc, vraiment, la population est plutôt contre eux.
Merci, voilà. Madame Midani. Alors, Monsieur Amrouni, depuis le début, le narratif qu'on peut trouver dans les journaux occidentaux et même par la voix même des gouvernements occidentaux, on a toujours présenté le Hezbollah ou les différentes résistances présentes en Irak ou en Syrie ou même en Palestine comme des terroristes, alors qu'eux-mêmes, des spécialistes en loi ont bien présenté que la résistance en Palestine ne peut pas être exprimée comme étant terroriste parce qu'il y a le droit à la résistance. Mais bon, ils sont présentés tels quels dans l'actualité internationale. Et on a vu ces dernières semaines, je ne parle même pas de ce qui se passait en Palestine, mais ce qui s'est passé également parmi les pays voisins de la Palestine, c'est-à-dire le fait qu'il y ait eu des exactions terroristes de la part de l'entité sioniste, puisque comme l'a dit Mme Midani, il y a un instant, ce sont des actes terroristes puisqu'ils se sont pris à la souveraineté d'un pays, ils se sont pris à l'armée d'un pays, alors qu'ils étaient pas ils ne sont pas en guerre officiellement. Donc en fait, ce sont des faits que finalement seuls des journaux comme Presse TV ou des journaux parallèles ont indiqué. Il faut savoir exprimer le mot terrorisme, il est facilement utilisé par le monde occidental, alors que si on regarde les faits, on est loin d'actes terroristes de la part de ces différents groupes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire quand on voit maintenant directement à la télévision ces actes terroristes réalisés par l'entité sioniste et comment finalement on arrive à les justifier?
D'abord, permettez-moi de saluer le peuple palestinien, le peuple de Gaza, la résistance palestinienne qui maintenant, on arrive au fameux 100 jours. Aujourd'hui, on est en 94e jour. Et on va arriver 100 jours, 100 jours de bombardement, de destruction, de génocide, nettoyage ethnique, de la barbarie, le maximum de la barbarie humaine. On l'a jamais vu dans l'histoire humaine, c'est-à-dire il y a eu des massacres, mais on ne les a pas vus. Les massacres des Indiens, les massacres des Vietnamiens, les massacres des Africains en Amérique latine, mais on ne l'a pas vu, on l'a vu plus tard. Mais aujourd'hui, on le voit en direct. C'est le changement réel aujourd'hui. C'est que la guerre, la tuerie, le nettoyage ethnique, on le voit tous les jours. Aujourd'hui, les femmes, les enfants, on continue à tuer des femmes et des enfants à Gaza. Il ne faut pas l'oublier. Il y a 200 morts par jour, il y a 200 martyrs par jour. Il y a à peu près 500 blessés par jour. On ne trouve pas à manger, on ne trouve pas de l'eau. Il n'y a pas de vie à Gaza aujourd'hui.
Donc il faut toujours
se ça, la barbarie de l'armée occidentale sioniste. Parce que ceux qui occupent la Palestine, ce n'est pas des juifs. C'est des occidentaux qui sont venus au nom d'une religion, au nom d'une histoire falsifiée, ils ont occupé la Palestine. Aujourd'hui, ces colons ne veulent plus revenir vers la frontière avec Gaza, ne veulent plus revenir vers la frontière du Liban, mais toute la société israélienne aujourd'hui, elle se pose en question sur son avenir. Est-ce qu'on a un avenir réel aujourd'hui dans cette région? Et c'est toute la question. Et permettez-moi de dire, j'étais surpris après l'assassinat de grands résistants, Salah al-Arouri, mais même le commandant Rabi Moussaoui et l'attentat en Iran, on a vu que les journaux en France et même en Angleterre et aux États-Unis n'ont pas appelé Salah al-Arouri le terroriste. Ils ont dit l'assassinat d'un combattant, d'un chef palestinien. Les journaux aujourd'hui en France hésitent à employer le mot terroriste par rapport à des commandants, par rapport à des résistants, que ce soit des Libanais, des Irakiens ou des Palestiniens. Donc il y a un changement dans le ton au niveau journalistique en Europe, mais aussi on a vu sur des plateaux télé, on n'a jamais vu ça, désigner les Israéliens comme des nazis, donc comme des barbares. Ça aussi, ça a changé. C'est le prix du sang des enfants palestiniens, des enfants de Gaza, les femmes de Gaza. C'est un prix hautement aujourd'hui bénéficiaire pour la résistance palestinienne et pour la libération de la Palestine. Mais permettez-moi, il y a un changement radical aujourd'hui dans l'opinion publique mondiale et surtout l'opinion publique occidentale. La question palestinienne, ce n'est plus une question entre la Palestine et Israël. La question palestinienne, aujourd'hui, c'est une question de la libération de l'humain. Aujourd'hui, les hommes, les Occidentaux, les Français, les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Américains même, ils ressentent qu'ils sont occupés par l'impérialisme. Aujourd'hui, le peuple américain lutte contre l'impérialisme américain. C'est incroyable. Donc, c'est un changement majeur. Il faut le noter. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est cette entité placée par l'impérialisme anglo-saxon qui se pose la question. Ce n'est pas le peuple palestinien qui pose la question. Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte Gaza? Est-ce que je reste? Est-ce que je quitte la Cisjordanie? Est-ce que la résistance palestinienne va entrer en guerre contre l'Israël ou c'est Israël qui va entrer en guerre contre la résistance libanaise? Aujourd'hui, la question centrale, elle se trouve au centre même de l'administration américaine. Est-ce qu'on va laisser le gouvernement de M. Netanyahou continuer sa barbarie, elle, au-delà de 100 jours? C'est pour ça que je dis que dans l'esprit américain, 100 jours, c'est très important. Il donne toujours 100 jours. Donc aujourd'hui, est-ce que Netanyahou va rester dans le gouvernement? Est-ce que ce gouvernement va rester? Si ce gouvernement reste en Israël, ça veut dire qu'on va vers la grande guerre.
Après, excusez-moi, Monsieur Abrouni, je vous interromps là-dessus, en sachant aussi que le Congrès s'est exprimé la semaine dernière, si je ne me trompe pas, le Congrès s'est exprimé la semaine dernière en disant clairement qu'ils n'avaient plus d'argent à donner. Il faut se rappeler, vous en aviez parlé tout à l'heure, Madame Midani, du coût de la guerre provoquée par les États-Unis et l'entité sioniste, qui est de, si je ne me trompe pas, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'était autour de 550 millions.
Malheureusement, ce n'est pas les Américains qui financent la guerre d'Israël, c'est les Arabes. C'est les Arabes qui financent. Et il faut le dire, il faut le dire aujourd'hui. Ceux qui trahissent la Palestine, ce n'est pas les Américains. Ceux qui trahissent la Palestine, c'est les Arabes, et surtout les Arabes autour. C'est-à-dire aujourd'hui, on a 100 millions d'Égyptiens, on a combien de Jordaniens, on a combien de toute cette population arabe? On a 340 millions d'Arabes. Qu'est-ce qu'ils font? Absolument rien. Aujourd'hui, cette guerre, elle est financée par l'argent arabe, par l'argent qui est donné par, je ne veux pas le nommer le pays, mais tout le monde sait de qui je parle. Aujourd'hui,
merci,
malheureusement...
Madame Milané, je vous vois réagir sur mon écran. Qu'est-ce que vous avez à dire à Monsieur Avroni tout de suite dans le vif?
Parce que moi, je refuse parfaitement qu'on dise que ce sont les Arabes. Il ne faut pas assimiler quelques gouvernements vendus ou sous la coupe américaine au peuple. L'empêche que les peuples de tous les pays du monde, d'ailleurs, y compris les pays arabes, ils ont le cœur avec la Palestine. Et c'est quand même quelque chose de très important à voir. Il faut voir quand même que les protectorats britanniques du Golfe et qui ont été placés en début du siècle dernier ou en milieu du siècle dernier au pouvoir, c'est quand même, ce sont eux qui sont sous la pression américaine en train de financer effectivement le terrorisme dans la région, comme ils l'ont fait vis-à-vis de la Syrie, mais aussi ils financent en partie cette guerre parce que c'est la pression, les pressions américaines, etc. Mais aussi parce que ce ne sont pas des pays indépendants, ce sont des pays dépendants. Ils sont sous la coupelle américaine et sous la domination américaine, il faut le savoir. Mais de toute façon, moi je voudrais saluer quand même, et il faut insister sur ce fait, que la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie aussi, il y a un énorme mouvement de soutien à la résistance palestinienne en Jordanie, un énorme mouvement de résistance et de soutien à la résistance palestinienne à Bahreïn. Et les Émirats, c'est quoi? C'est en fait un territoire comme Hong Kong, c'est en fait de business pour les Britanniques. Mais l'Arabie Saoudite aussi, jusqu'à présent, elle fait des choses sous la table, mais elle essaye de réagir aussi à sa manière. Dans le soutien des Palestiniens, mais aussi dans la présence, je dirais, elle jongle avec la présence américaine et ses accords avec les Américains. Par contre, l'Égypte, le peuple égyptien est aussi avec les Palestiniens et pour le soutien total à la lutte du peuple palestinien. Je voudrais rappeler quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, qu'un soldat, à titre individuel d'ailleurs, il a dû exécuter deux soldats israéliens aux frontières de Rafah, par là. C'est sûr que les gens, ils ont... il y a quand même des rapports de force qui se font.
Merci, Madame Midani.
Je refuse qu'on dise que ce sont les Arabes qui financent cette guerre.
Merci, Madame Midani. Merci, Monsieur Amrouni. Merci,
permettez-moi
Madame.
Permettez-moi une dernière phrase.
On n'a plus le temps, en fait, pour l'enregistrement. Désolée.
Cette année, c'est une année de la victoire de la Palestine et de la résistance palestinienne et de tous les peuples qui luttent contre l'hégémonisme, l'hégémonie américaine, mais aussi les peuples qui luttent pour leur indépendance, en fait. Donc, aussi bien... moi, je voudrais dire quand même juste une petite réalité.
Je suis vraiment désolée.
C'est que la destruction de l'Irak et de la Syrie a été pour leur soutien à la Palestine. Il ne faut pas nier ça. Et aujourd'hui, l'Irak et la Syrie sont des pierres angulaires dans la lutte contre l'hégémonisme et le sionisme dans la région.
Merci,
en plus des Palestiniens, bien sûr.
On n'oublie pas que Mme Midani a été directement... a vu directement ce qui se passait en Syrie, donc elle sait de quoi elle parle. Je vous remercie, chers téléspectateurs, je vais faire vite pour vous dire au revoir et vous dire à la prochaine fois. Nos condoléances vont aux familles des victimes du terrorisme sioniste, notamment aux Palestiniens. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet du débat. Au revoir.
La Russie et l'Iran n'ont pas besoin de SWIFT. L'Iran et la Russie sont officiellement passés du système de compensation financière SWIFT occidental à un mécanisme de transfert interbancaire direct, a déclaré Mohsen Karimi, le directeur adjoint de la Banque centrale d'Iran. Mohsen Karimi a déclaré dimanche 7 janvier que le système permet aux entreprises des deux pays de négocier dans leur monnaie nationale respective au lieu d'utiliser le dollar ou l'euro. Nous avons relié les réseaux de correspondance financière des deux pays, a-t-il expliqué. Cela signifie que les banques de nos deux pays n'ont plus besoin de la Suisse pour communiquer entre elles et que les banques commerciales des deux pays peuvent établir des relations de courtage entre elles. L'exportateur iranien peut désormais facturer la partie russe en rial et recevoir de l'argent via les banques russes en Iran. A encore dit Karimi, notant que le système permet également les paiements en roubles russes. SWIFT, basé en Belgique, est un système de messagerie bancaire de haute sécurité qui permet des transferts financiers dans le monde entier. Même si un certain nombre de pays disposent de leur propre système de messagerie, la plupart des transactions mondiales restent effectuées via SWIFT. L'année dernière, des banques russes clés ont été déconnectées du réseau dans le cadre des sanctions liées au conflit ukrainien. Les restrictions occidentales ont contraint la Russie à promouvoir activement son système de paiement national SPFS, introduit pour la première fois lorsque les États-Unis ont imposé des sanctions au pays en 2014, un système alternatif à SWIFT. Le système qui facilite la messagerie financière entre les banques au niveau national et international comptait 514 participants, dont 131 entités étrangères de 15 pays au premier semestre de l'année dernière. L'Iran et la Russie sont tous deux visés par les sanctions occidentales. Les deux pays ont annoncé pour la première fois leur intention de supprimer les monnaies occidentales des règlements mutuels et d'utiliser des systèmes financiers alternatifs dans leurs échanges commerciaux en 2022. Lors d'une réunion entre les dirigeants de leur banque centrale à la fin du mois dernier, Téhéran et Moscou ont signé un accord qui formalisait cette aspiration. BRICS, 16 nouveaux pays prévoient d'abandonner le dollar en 2024. Pays caressent l'ambition de marcher dans le sentier de l'abandon de la domination du dollar dans le commerce international avec l'option des monnaies locales. Les BRICS, acronyme de l'Association commune du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, s'efforce depuis des années de remettre en question l'hégémonie économique des États-Unis. Récemment, 16 autres pays ont uni leurs forces, prévoyant d'abandonner le dollar américain pour traiter les échanges entre eux en monnaie locale. Dans la mosaïque de ces pays, il y a les 10 pays de l'ANAS, un bloc de 10 pays comprenant le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam. Des pays d'Afrique et du Moyen-Orient tels que le Pakistan, l'Irak, la Turquie, le Nigeria et l'Égypte devraient prétendre à l'une des places supplémentaires au sommet des BRICS de 2024. Ce changement a pris de l'ampleur ces derniers temps et les pays prennent de plus en plus leur distance par rapport au dollar américain. Qu'est-ce que le plan? Le plan consiste simplement à supprimer le dollar américain dans les échanges bilatéraux entre 16 nouveaux pays comme l'Iran, le Pakistan, le Kazakhstan et l'Afghanistan. Ces pays utiliseront leur monnaie locale, préférant traiter entre eux plutôt qu'avec leurs partenaires commerciaux les plus importants. Il convient de noter que cette mesure réduirait lentement l'importance du dollar dans l'économie mondiale, créant ainsi un monde plus multipolaire. Implications. Tout d'abord, il est pertinent de noter que les États-Unis exercent un pouvoir économique massif en tant que monnaie de réserve mondiale. Pour mettre les choses en perspective, plus de 60% des paiements dans le monde sont effectués en dollars. Cette réalité renforce le contrôle des États-Unis sur le financement mondial et leur donne une influence considérable sur les accords commerciaux. Cependant, lorsque ces 16 nouvelles nations commenceront à utiliser des monnaies locales dans les échanges bilatéraux, le pouvoir et l'influence du dollar américain sur l'économie mondiale commenceront à être réduits à néant. De plus, les conséquences négatives de ce mouvement atteindraient les côtes américaines. Lorsque ces pays commenceront à utiliser leur monnaie locale pour leurs échanges commerciaux, la demande de dollars diminuera considérablement, ce qui entraînera une réduction de sa valeur et de son pouvoir. Dans le pire des cas, cela peut créer une crise économique alors que les États-Unis luttent pour maintenir leur statut d'économie mondiale dominante. Pourquoi c'est nécessaire? Compte tenu de la position dominante de l'Amérique dans l'économie mondiale, il est devenu évident que les pays du monde entier souhaitent un système plus multipolaire. Les États-Unis ont exercé trop de pouvoir en contrôlant la monnaie de réserve mondiale, ce qui a conduit à des accords commerciaux inéquitables qui ont endommagé les économies de nombreux pays dans le monde. Ces pays réalisent maintenant que s'ils continuent à dépendre du dollar américain, cela entravera continuellement leur croissance économique. La décision de ces 16 nouveaux pays d'abandonner le dollar américain dans les échanges bilatéraux et d'utiliser leur monnaie locale est une étape audacieuse dans la création d'un monde plus multipolaire. Elle marque un changement de paradigme dans les politiques économiques mondiales, les nations devenant moins dépendantes du dollar américain. Bien que cette décision puisse avoir des conséquences négatives pour les États-Unis, il s'agit d'une étape cruciale pour rectifier les accords commerciaux inéquitables qui ont affecté les économies émergentes.